Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue sur RMC, RMC Story à 9h. Vous savez que c'est le rendez-vous des GG, des grandes gueules. Vous êtes là prêt d'abondir au 32-16. Tant mieux, bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Marianne Soubré, avocate. Bonjour ma chère Marianne, bonjour, bonjour maître.
Bonjour à tous.
Stéphane Manigold, restaurateur, est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour Stéphane.
Salut les GG, bonjour à tous, bonjour les artisans et spécialement bonjour aux serveurs du bar de l'Assemblée nationale qui nous écoutent. Je suis passé les voir et ils nous ont dit « Moi j'écoute les GG !» Donc c'est voilà, un petit clin d'œil.
Eh bien, on leur passe le bonjour aussi. Étienne Liebig, éducateur, est avec nous aussi. Bonjour.
Salut à tout le monde.
Des GG qui, depuis 20 ans maintenant, ont quand même une allure de village gaulois, d'irréductible gaulois quand même. Vous ne trouvez pas ?
Bah oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on regardait ce matin avec Alain les sorties de films. Il y a Astérix et l'Empire, et Obélix et l'Empire du Milieu qui, je pense que personne, ça a échappé à personne, qui sort aujourd'hui dans toutes
avec
les
Guillaume
salles.
Canet, ouais.
Voilà, avec Guillaume Canet, Le Louche et les autres. Et c'est vrai qu'on se disait, les Grandes Gueules, c'est un peu un village gaulois. Ça fait 20 ans qu'on gueule, comme des Gaulois.
C'est presque une grande gueule.
Et au milieu de tout ça, Étienne et moi, ça fait quasiment 20 ans qu'on gueule avec vous. Enfin, allez, on
mais
va toi, dire 15
toi,
ans.
Toi, Marianne, t'es un peu bonne mine, regarde. Vous allez essayer d'imaginer quel personnage alors, vous pourriez
oui.
incarner.
Alors, j'ai la taille de bonne mine, ça c'est clair et net.
Après, la femme du chef.
Après pour
alors,
le
regarde,
reste.
Manigold, c'est en bas alphabétique. Le poissonnier.
Il est pas frais, mon poisson.
Voilà, c'est
il a Truchot.
Et Étienne, c'est bien sûr le barbe, assurance Turux.
Hein eh oui, puisque tu es musicien de jazz, on le rappelle.
Avec il faut dire qu'on a une très très mauvaise. Une très fausse opinion des Gaulois.
Oui.
Quand on étudie vraiment l'histoire des Gaulois, par exemple, ils mangeaient très peu de viande, ils mangeaient beaucoup de graines.
Ils étaient véganes.
Ils étaient pratiquement véganes, si on veut dire. Ceux du bord de la mer mangeaient du poisson. Ils n'étaient pas du tout résistants. Parce qu'ils ont été très vite à adopter les modes de vie romains, oui. par exemple.
Bah,
donc, c'était pas du tout des gens qui ont résisté culturellement.
On va quand même respecter les traditions. Est-ce qu'on peut bâillonner, s'il vous plaît,
Étienne? Oui, il parle trop.
Voilà. Non, on va le mettre dans un coin et
Assurance Turix, moi c'est un même personnage préféré.
Oui. Et s'il chante, je vous l'accorde. D'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas tellement exploité. Il n'y a pas eu de grandes histoires autour d'Assurance
Turix. Et ordre alphabétique, le seul poissonnier qui fait venir son poisson de Lutèce, alors qu'il est au bord de la mer. C'est assez
et
génial.
Bonne mine, elle est féministe, Bonne mine,
ah,
parce
oui,
que c'est le pouvoir, c'est Bonne mine qu'il a.
Oui.
Le chef, il est un peu bébête, il se fait avoir.
Oui, un raccourci.
Ouais, enfin,
c'est Bonne mine qui décide.
Tu vois, bizarrement, vous auriez pu dire Falbala, vous dites Bonne mine, je ne sais pas comment je dois le prendre.
Ah, ils ont réservé Falbala, à mon avis, à quelqu'un d'autre. Ouais. C'était ce que je veux dire. Hein.
Ah, mais je vois bien Joël en Falbala.
Et vous avez Sarah Sabal.
Oui, ouais, ah, c'est ouais. ça, c'est Falbala. Est-ce que vous les avez tous lus, Astérix, j'imagine,
pas
ou pas
tous, mais oui, beaucoup.
Ouais. Les enfants, ils ont toute la collection.
Lequel est votre préféré?
Le combat des chefs.
Ah, moi, c'est Obélix.
Non, mais l'album.
L'album, je vais plutôt être film, c'est Astérix contre Cléopâtre.
Ah oui, le Chabat, ouais.
Ah
ouais,
enfin, j'aime bien Cléopâtre, pardon.
J'aime bien avec les Bretons, je trouve que c'est très drôle.
Parce que Alain Chabat est absolument extraordinaire dans le film, c'est une interprétation qui est formidable et en termes d'humour, de jeu d'acteur, d'armon.
Ouais. On verra, c'est le défi que doit relever Guillaume Canet d'ailleurs.
Parce qu'il a quand même une sacrée distribution dans son film. Hein.
Ça veut rien dire.
Bah, bonne chance au film de Guillaume Canet avec.
Ouais, 70 millions quand même.
Hein. Sans les vacances, donc ça devrait aller.
C'est une grosse production à 70 millions d'euros.
Ouais. À chaque fois. C'est une des plus grosses productions françaises. Ouais.
Les Irréductibles Gaulois, ils étaient dans la rue hier aussi face au tout-puissant chef à l'Elysée. Macron,
c'est Jules César.
C'est ça, c'est Macronus premier. Après, alors, retraite, syndicat, gouvernement, les amis, à votre avis, dans ce bras de fer qui est engagé, qui va craquer le premier 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules.
Il sera jusqu'au bout. On a commencé, il faut aller jusqu'au bout.
On va continuer et on va rien lâcher.
C'est une mesure injuste et qui ne se justifie pas.
J'espère que ça va entraîner d'autres gens. J'espère qu'on ne sera pas tout seul et que la prochaine fois, il y aura encore plus de monde dans la rue.
J'ai vu que les syndicats ont appelé à des nouvelles journées de mobilisation. Mon message, il est clair aux syndicats. Si vous continuez à vous mobiliser, continuez à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, parce que à la fin, quand il y a des blocages, c'est toujours eux qui trinquent. Les Français qui vont travailler ou qui prennent un peu de vacances bien méritées.
Voilà, parole de manifestant. Et vous avez entendu Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, évoquer les prochaines journées de mobilisation hier soir sur TF1.
Alors déjà, on va peut-être évacuer la bataille de chiffres, parce que les chiffres de la CGT, on le sait, sont toujours gonflés, eux-mêmes le reconnaissent. Les chiffres d'occurrence, le cabinet indépendant pour les médias, dont BFM TV, pose question, parce qu'il semble être en dessous de la réalité, notamment sur Paris. Donc on va prendre les chiffres de la police, qui sont souvent assez justes. Et donc il y avait quand même beaucoup de monde hier dans toutes les rues de France, plus d'1 200 000 personnes à travers toute la France. C'est en augmentation si on prend les chiffres de l'intérieur le 19 janvier. On est même au-delà du record historique de 2010, au plus fort de la contestation contre la précédente réforme des retraites qui passait de 60 à 62 ans, celle de Sarkozy-Evert. Donc c'est un succès. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir, c'est que ça a aussi beaucoup fonctionné en province et notamment dans ce qu'on appelle les villes moyennes, même parfois des petites villes à Guéret, etc., où les habitants eux-mêmes sont surpris de voir autant de monde dans la rue. Ça veut dire, à mon avis, l'explication, c'est que la classe moyenne était dans la rue hier. Alors peut-être qu'à Paris, où les cadres sup sont surreprésentés, on est moins concernés par les 64 ans, mais la classe moyenne, celle faite des aides-soignants, de profs, etc., de cadres de la fonction publique, enfin ceux qui sont catégorisés, etc., ben on s'est mobilisés. Et donc, une fois de plus, Emmanuel Macron se met à dos la classe moyenne après les Gilets jaunes. Deux nouvelles dates, le mardi 7, mardi prochain, et le samedi 11 février. Vous avez entendu le gouvernement, pas question de plier. Alors, qui va craquer en premier? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les syndicats? Qu'en pensez-vous?
32-16 pour le dire aux grandes gueules, Étienne.
C'est le mot craquer qui va pas. Personne va craquer en premier. Ce qui se passe en général dans ce genre d'événements, c'est que le gouvernement lâche progressivement sans donner le sentiment de craquer, c'est-à-dire que il va lâcher sur des tas de...
Oui, mais c'est les 64 ans qui posent problème. Oui, et là, il ne peut pas lâcher dessus.
Il va tenir tant qu'il le pourra. Mais d'un autre côté, on sent là je pense qu'il est en train de faire une grave erreur. Par exemple, là, ce qu'a dit Darmanin hier, ce que dit Attal, c'est absurde. Je veux dire, Darmanin qui nous parle ce sont des gauchistes qui ne travaillent pas. C'est exactement l'inverse qui se passe dans la rue aujourd'hui. C'est pas du tout l'image. Aussi. Non, mais l'image, je dirais salmanienne, de Sarah Salman, du gauchiste qui est au lit toute la journée et qui sort pour manifester. Là, c'est que des gens qui bossent précisément. C'est des gens qui travaillent, qui sont dans la rue. C'est pas des gens qui. Il est exactement à contre-courant. Et ça, c'est une erreur de communication. Grave, là il passe pour un idiot en traitant les gens,
il s'adresse à ceux qui font pas grève,
en les insultant de cette manière-là, et d'autant plus que ce que l'on sait, c'est que il y a des tas de gens qui sont d'accord avec qui sont contre cette loi,
mais qui
sont
pas
carrément
grève.
Contre et qui peuvent pas faire grève pour des raisons soit financières,
mais alors,
soit des raisons
de continuité. À la question, qui va lâcher en premier, les syndicats?
À mon avis, le gouvernement va être contraint de lâcher.
Marianne Soubry.
Bah moi, depuis le début, j'ai quand même un revival 1995, droit dans ses bottes. J'ai regardé, du coup, 1995, c'était 3 semaines. 3 semaines.
Et de blocage,
absolument. 3 semaines de blocage en continu, ce qu'on n'a pas revu depuis. Mais effectivement, il y avait cette même image de dureté, d'un pouvoir extrêmement figé. Et on se souvient tous de cette expression, quoi, avec Alain Juppé qui disait qu'il était droit dans ses bottes. Et ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls qui interviennent vont intervenir contre les manifestants avec des paroles qui sont absolument incroyables. C'est-à-dire venir dire, vous empêchez les gens de travailler alors que ce sont des travailleurs qui sont dans la rue. Enfin, moi, je trouve que c'est insultant. Enfin, on n'a pas à parler comme ça. Et il ferait mieux de se rendre compte qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, moi, je pense effectivement que ils risquent. Plus ils vont durcir le ton, plus ça va se mobiliser en face. Et donc, si quelqu'un doit lâcher et craque en premier, je pense que ça sera le gouvernement donc, également.
Pour Étienne et toi, c'est le gouvernement. Alors, qui va craquer en premier, Monsieur Stéphane Manigold?
Un, j'aimerais juste d'abord féliciter les organisateurs de cette deuxième manifestation, puisqu'il n'y a pas eu réellement de heurts, et c'est tant mieux. Les commerces n'ont pas été saccagés, donc on revient à une organisation où les grands syndicats démontrent à quel point ils savent organiser des manifestations. Donc ça, faut le souligner. Après, le revers de la médaille, c'est que nos entreprises hier à Paris, c'est quand même plus de 50% de chiffre d'affaires en moins. Donc c'est de la rentabilité en moins pour les commerçants. Donc et je parle pas de ceux qui sont des tracés où ils étaient pour certains fermés, ou en tout cas même s'ils étaient ouverts, il n'y a pas de clients. Donc ça, il faut quand même le souligner. Ensuite, est-ce que le gouvernement va craquer? Moi, je le pense pas. Je pense que l'âge de départ à la retraite, c'est 64 ans. Est-ce qu'ils sont mauvais en communication? Oui, parce que hier, il y avait aussi une France entre guillemets qui travaille. Il y a aussi une France des protégés, ce que j'appelle ceux qui sont dans les grands corps de la fonction publique, qui étaient présents. Mais on note aussi.
Pardon, c'est vrai que c'est un peu tout le paradoxe, c'est-à-dire que on peut aussi regarder que ceux qui sont en première ligne sont ceux qui sont quand même entre guillemets plutôt protégés.
Quoi, hein, c'est quand même soit les grosses boîtes, soit les personnels de la fonction publique. Donc c'est ceux qui partiront.
Les gens qui ont été pénibles dans la fonction publique, 43 ans de cotisation.
Finir mon propos. Moi, je note qu'il y a 29 millions d'actifs. Il y avait 1 million dans la rue. Il y a 28 millions d'actifs qui sont allés travailler hier ou qui ont télétravaillé. Donc, faut aussi quelque part l'entendre. C'est pas non plus un raz-de-marée. C'est un succès, faut le reconnaître. C'est beaucoup. Mais c'est pas non plus le raz-de-marée.
C'est ce que dit le gouvernement. Le gouvernement dit c'est pas un raz-de-marée.
Non,
c'est beaucoup,
et donc,
mais c'est pas non plus plus que
les sondages.
Les sondages, quand même, les sondages sont quand même assez. Oui, ça, c'est vrai. Sur le fait que c'est 75% des Français.
Quel est le premier sujet qui va vraiment embêter la population française, c'est l'éducation nationale, les profs. Quand les travailleurs ne peuvent pas emmener leurs enfants à l'école. Moi, je note qu'hier, l'éducation nationale, c'était 25% de mobilisation contre 50% la première. Donc, tu as quand même un net recul. Donc,
même ce que ça coûte de faire grève. Ça, c'est vraiment l'issue du pouvoir d'achat.
Bruno Poncet nous disait que tous les jours, quand il faisait grève, ça lui coûtait 120 euros par jour.
Mais derrière, la SNCF est passée de 46% à 36%.
On verra le samedi 11, en fait. Il faudra vraiment voir à ce moment-là, parce que c'est pour ça qu'ils ont mis justement un samedi.
Le mardi, je comprends pas pour le coup.
Pour marquer le coup, je pense, mais effectivement, et puis pour faire la jonction, pour que les gens restent mobilisés, je pense que c'est ça.
Eric est avec nous au 32-16. Bonjour Eric.
Bonjour les GG.
Alors, qu'en dites-vous Eric, selon vous, votre appréciation de la situation, qui risque de craquer en premier? Alors le gouvernement ou les manifestants et les syndicats?
Alors je ne sais pas si les manifestants et les syndicats vont craquer, mais je suis quasiment sûr que le gouvernement, lui, ne craquera pas. Ils sont d'une arrogance folle, ils sont par principe, ils ne veulent pas reculer, même si jamais ils ont tort. Je les vois pas reculer, surtout après tout ce qu'ils ont dit, ou ce serait un aveu d'échec ou un aveu de faiblesse. Et c'est la chose que Macron ne fera jamais. Donc ils sont tellement persuadés.
Il a fini par reculer.
En 2019,
ça a été 64, long, hein. Mais avec le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'on a retiré la fameuse taxe carbone.
Vous trouvez qu'il a reculé sur les Gilets jaunes?
Ah bah oui, il a retiré la taxe carbone. Il a dépensé 11 milliards d'euros, oui. Alors peut-être que les Gilets jaunes estiment que c'était pas assez, que c'était pas la bonne réponse, mais oui, il y a eu un recul.
Et en 2019 aussi, il avait reculé.
Oui, alors, c'est là où en fait la compréhension, et j'entends Eric s'exprimer, en fait, lui, il s'exprime pas sur la retraite, il s'exprime contre Macron. Et c'est un peu le problème. La question qui est posée, c'est la réforme des retraites nécessaire, qui est un exercice comptable pour 2030. C'est pas pour ou contre Macron, on s'en fout, c'est pas le sujet.
Ça, on n'arrive pas à savoir si la réforme est justifiée ou pas. Actuellement, on part du même rapport unique du corps qui semble être la base de toute la réflexion. Et les opposants, comme les pros, utilisent ce même rapport pour vous justifier soit de la mise en place de cette réforme, soit de l'annulation de cette réforme.
Oui, c'est vrai.
Moi, pauvre citoyen qui n'ai pas lu le rapport du corps, j'ai essayé, mais c'est particulièrement indigeste. Je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à tirer mes propres conclusions pour savoir si je suis pro ou anti-réforme.
Et j'ai même lu en fait un article qui était assez intéressant, qui disait que par exemple le plus gros poste en fait sur les retraites, ce sont les fonctionnaires, mais ça a été calculé comme si on restait qu'on ne faisait aucune embauche sur la fonction publique, et effectivement si on ne fait aucune embauche à ce moment-là, il va y avoir un gros déficit, mais en réalité comme on annonce des tas d'embauches dans plein de, que ce soit l'éducation, etc.
C'est un souci d'embaucher les fonctionnaires.
Chiffres, si tu veux, du coup ont l'air un peu faussés aussi, tu vois, du côté du gouvernement.
Mais la question en fait, moi je pense parce qu'aujourd'hui, les syndicats, de toute façon, le gouvernement a perdu la bataille d'opinion, on l'a bien compris, et ils n'arriveront pas à convaincre tout d'un coup. Mais les syndicats, eux, ils pensent faire pression sur les députés. Parce que ce qui joue aujourd'hui, aussi bien pour Macron et les syndicats, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Macron veut à tout prix faire passer sa réforme 149.3. Il veut convaincre la droite de voter sa réforme. Et il y avait eu un accord, mais visiblement, l'accord maintenant est un peu plus compliqué. Et les syndicats estiment que si Macron n'arrive pas à faire passer sa, à faire voter sa réforme, ils auront gagné. La bataille, en fait, est à l'Assemblée.
Mais tout parce que Eric, précisément,
juste un dernier mot, parce que vous faites quoi dans la vie, Eric, du côté de la Haute-Garonne là ?
Je suis directeur d'une usine.
D'accord, directeur d'usine, et vous êtes contre cette réforme, si j'ai bien compris.
Non, il ne sait pas. Comme je vous l'ai dit, je n'arrive pas à me positionner.
Oui, mais c'est parce que, en même temps, je vous ai entendu dire l'arrogance de Macron. Donc vous êtes contre le gouvernement, aussi contre le président.
Je ne suis pas forcément. Alors c'est vrai que ces dernières actions ne me conviennent pas forcément. Mais j'ai pas un rejet par principe de Macron. Moi, je juge sur pièce, je juge sur résultat. Voilà.
Après, vous pouvez très bien. Voilà, vous pouvez très bien faire un calcul, regarder pour vous, ce qui vous aidera aussi à vous déterminer si vous êtes pour ou contre cette réforme aussi.
Tout à fait, Eric, sans lire le rapport du corps, pardon, j'invite d'ailleurs tous nos, nos auditeurs à le faire. Sans avoir besoin de lire le rapport du corps, j'invite tous nos auditeurs à le faire. Prenez votre fiche de paye, regardez comment est composée votre fiche de paye. L'assurance vieillesse, quel est le montant ? Par exemple, pour 2 000 euros dans mon secteur, eh bien, c'est 234 euros. Ça, c'est ce qui a marqué sur la fiche de paye. Et puis, vous avez une autre ligne un peu plus bas qui s'appelle la complémentaire retraite. Et cette complémentaire retraite qui est collectée, non pas par l'État, mais par un organisme privé, donc on y est presque, eh bien, elle pèse plus de 50%. Et moi, la question que je pose, par exemple, dans mon secteur, c'est près d'un milliard. Depuis 1999, nous avons mis un système de retraite complémentaire en place. C'est près d'un milliard par an qui est collecté. Qu'est-ce qu'ils font de ce pognon ? Alors aujourd'hui, on donne cet argent à une complémentaire qui sont les mêmes que les mutuelles, Clésia pour pas les citer, qui a lui-même été racheté par une boîte italienne qui s'appelle Generali, et c'est collecté, l'argent des Français est collecté, et au fond, personne ne pose la question, mais où va tout ce pognon ? J'invite tous les
auditeurs...
Mais pourquoi tu donnes... Alors tiens, c'est marrant, Étienne Yebig, pourquoi cet argent, tu le donnes au secteur privé ? Alors que tu as des fonctionnaires qui collectent déjà dans le cadre du régime général. Et d'ailleurs, si tu lis les rapports des parlementaires et de la Cour des comptes, ils pointent systématiquement les frais de fonctionnement et les budgets. Mais si tu veux faire des économies.
Non, c'est pas des économies. C'est-à-dire qu'on sait bien que le système par répartition, il est en train de mourir ou de vaciller.
Mais parce qu'il y a trop de gens qui se gavent sur la bête.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on a un problème de démographie. C'est qu'on fait pas assez d'enfants. Et qu'on vit de plus en plus tard. Le jour où on aura le courage de dire, il faut peut-être garder la répartition pour assurer effectivement un minimum à tout le monde, mais ensuite il faut capitaliser. Mais les Français le font déjà, ils capitalisent. C'est la grande hypocrisie.
Je trouve qu'il y a aussi un sujet.
Étienne, toi, t'es pas propriétaire.
Je suis propriétaire.
Voilà, mais il a capitalisé.
Il y a aussi un sujet. T'es pas dans la rue hier. Il y a aussi un sujet qui est important, c'est le remplacement des hommes. Enfin, au sens large du terme, avec
un grand H,
bien sûr, par les machines. Si on prend, par exemple, dans mon centre commercial à côté de chez moi, là où il y avait 30 caissières, par exemple, qui ont été remplacées par 3 caissières et des machines. Bizarrement, on fait payer uniquement les salaires, alors même que là, maintenant, j'ai 3 salaires à la place de 30 salaires, donc une grande diminution, alors que le chiffre d'affaires de Carrefour est exactement le même. Ce qui veut dire que c'est parce qu'il y a des pays qu'on fait ce choix-là, c'est-à-dire le choix. Il y a des pays qui ont fait le choix de taxer les machines et pas seulement les hommes, parce que ça crée un véritable problème, parce que si demain plus personne travaille parce que ChatGPT fait tout, remplace les profs, il y aura plus personne qui paiera la taxe.
Eric, merci d'avoir été avec nous et la discussion va continuer avec Frédéric dans un instant du côté de la Seine-et-Marne, qui est agent de la fonction publique. Alors, qui va craquer en premier, le gouvernement ou les manifestants, les organisations syndicales aussi? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, qu'on vous donne la parole tous les jours au 32-16, bien sûr, comme avec Frédéric, comme avec Fabrice, là, dans un instant. Frédéric, bonjour.
Oui, bonjour les GG. On discute
de cette contestation de la réforme des retraites. Selon vous, qui va craquer, le gouvernement ou les manifestants, les organisations syndicales? Alors, dites-nous.
Alors moi, je pense que le gouvernement donc va battre en retrait, hein, parce que comment la deuxième manifestation a été phénoménale. Moi, j'y ai participé.
À quel endroit?
Et, tout au moins si à Paris.
D'accord.
À Paris. Et donc, si éventuellement donc ils ne la retirent pas, mais bon, ils vont devoir vraiment revoir leur copie dans tous les sens, quoi.
Ouais, mais revoir la copie. Si je comprends bien, ce qui ne pose problème, c'est les deux ans de plus. Et l'âge de départ en retraite à 64 ans. Et si touche à ça, il n'y a plus de réforme. Moi, je pense que le gouvernement...
Oui, mais parce qu'il devrait revoir... Moi, je pense qu'il devrait revoir vraiment les critères de pénibilité, hein, je veux dire, en rajouter, parce que c'est pas possible. Quand je
les
vois
années
pas,
de cotisation...
Mais Frédéric, oui. Est-ce qu'on peut considérer... Je vois que vous êtes agent de la fonction publique, mais vous faites quoi exactement, pardon?
Ah bah moi, je suis... j'étais adjoint d'animation, et maintenant, donc, je suis justement donc, à une maladie professionnelle, accident de travail, donc, moi, j'ai eu un reclassement professionnel, donc je suis maintenant donc adjoint administratif. Voilà.
D'accord, et mais la pénibilité, il y a 10 ans, 15 ans, c'est pas la même aujourd'hui. Et je crois que quand vous parlez de pénibilité, il faut aussi se projeter. Alors c'est vrai que, je sais plus qui avait parlé des exosquelettes.
C'était François Patria.
Ouais, mais il a été ridiculisé à tort. Parce que, par exemple, nos amis vignerons qui ont des récoltes sur des collines plutôt ou des...
Ils font travailler des migrants.
Mais oui, et les exosquelettes, eux, ils sont plutôt...
Non, ils font travailler des migrants, c'est ça leur exosquelette.
Oh. Bah, oui, mais bon,
c'est la vérité, il faut arrêter de raconter n'importe quoi.
On parle beaucoup des exosquelettes depuis des années. Hein, moi-même, donc en tant que syndicaliste, on n'arrête pas de le remettre à l'ordre du jour, donc lors des comités techniques ou quoi que ce soit. Et donc, on nous fait toujours la promesse, mais bon, ça coûte tellement cher et tout ça. Donc, le temps d'investir. Donc, moi, je veux dire, les exosquelettes, ça fait, je ne sais pas moi, 6 ans qu'on en parle et on n'a jamais rien vu arriver jusqu'à ce
moment-là. Mais vous, Frédéric, Frédéric, vous avez quel âge?
Alors, moi, j'ai 54 ans.
Donc là, effectivement, à 54 ans, on vous dit, vous avez travaillé un peu plus, quoi.
Ben oui, travailler un peu plus. Donc bon, enfin bon, maintenant mes conditions de travail donc se sont améliorées suite à, je vous dis, un accident professionnel.
Oui. Vous avez changé de poste.
Voilà, j'ai changé de poste, mais bon, ben je suis quand même reconnu travailleur handicapé et autres. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de difficultés. Hein, je suis constamment pas sous morphine.
Parce que moi, je pense que Frédéric, la réforme, elle est surtout injuste pour ceux qui ont passé 55 ans. La réforme, finalement, la retraite est pas si loin. Donc, parce que quand on a 30 ans, ça paraît très loin.
Contrat, hein.
Et effectivement, il y a un côté un peu injuste en disant, ah, mince, j'ai quand même bossé déjà pendant plus de 30 ans. On projette des trucs et on me dit, on change les règles du jeu, je vais devoir bosser quelques trimestres,
donc tu veux dire
voire
que
deux ans de plus. Et moi, je pense que la réforme est particulièrement injuste pour ces gens à qui on dit les règles du jeu changent.
Donc,
alors vous
la
étiez presque
par
à la
capitalisation,
fin.
En fait.
Non, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est le problème du gouvernement. Mais le gouvernement change les règles du jeu un peu brutalement.
Je vous explique un peu mon cas. Moi, avant d'être fonctionnaire, j'étais contractuel. Et donc, on n'avait pas forcément pas les heures qu'il fallait, quoi que ce soit. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, pendant 5 ans, j'ai travaillé en double. C'est-à-dire que je travaillais et en tant que contractuel, donc dans la fonction publique, et 5 ans dans le privé. Donc, quand j'ai reçu mon relevé de carrière, donc on voit bien que ça apparaît. Donc, sur un an, donc il y a 8 trimestres qui apparaissent. Mais on a dit, bon, on n'en retient que 4, 7. Mais en attendant, moi, j'étais prélevé donc sur ces salaires-là. Donc, il me manquait à peu près un an ou deux ans donc en début de carrière. Donc, je vois pas pourquoi on n'aurait pas pu, par exemple, prendre l'exemple de répartir le fait que j'ai travaillé double, les répartir sur les années qui sont vides.
Mais
donc, il y a plein de gens dans ma situation.
Mais vous serez,
c'est dégueulasse.
Vous serez dans la rue le mardi 7?
Oui, j'y serai.
Et le samedi 11, les deux.
Et le samedi 11. Alors donc pareil, là j'avais été interviewé par une, je sais pas, peut-être une journaliste qui prenait des notes sur un bout de papier, qui me disait, mais comment moi je voyais l'évolution de cette manifestation. Donc moi je pense après qu'il faut plus cibler sur les samedis et les dimanches parce que les gens ont l'opportunité de venir sans perdre de salaire. Et puis par contre tous ceux qui rejoignent les gros groupes comme la SNCF, EDF et tout ça, donc ils devraient eux mener des actions. C'est-à-dire par exemple là il va y avoir 3 semaines de vacances, ça serait bien que pendant ces 3 semaines les vacances étalées, que la SNCF laisse les contrôleurs, tout ça, donc laisse monter les gens librement dans les trains.
Ils n'ont pas le droit.
Malheureusement, c'est interdit.
Et puis qu'on donne l'électricité. Oui, mais vous savez, les interdits, au bout d'un moment, il faut les franchir quand on a le couteau sous la gorge.
Risque de se retourner contre eux, c'est ça que je veux dire.
Écoutez, Frédéric, on sent votre mobilisation, parce que vous dites, moi, je suis prêt à continuer d'aller manifester. Je vous remercie d'avoir été, avec nous.
Il y avait une chose également, je tenais à préciser, donc concernant, toujours la bataille des chiffres, moment d'une manifestation. Moi, j'étais sur Paris hier et à un moment, donc, je me suis retiré de la manifestation pour rejoindre le groupe de bus qui attendait les grévistes. J'en ai compté, moi, sur 3 rues et une place, la place de Fontenoy, je crois. Donc, on était déjà à 580 bus. 580 bus, donc je parle avec une moyenne de 50 à 70 sièges. Donc vous voyez, et en resté sur 300 à 400 de l'autre côté, parce que j'ai pas pu tout faire. On s'est réparti avec plusieurs collègues pour les compter, et donc pour avoir un peu une idée approximative des chiffres, et c'est bien ce que qu'on a pu constater.
Voilà. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. Merci bien, cas, bonne journée du côté de la Seine-et-Marne.
Voilà, est-ce que Macron n'en fait pas une affaire
à bientôt, affaire Frédéric. Fabrice, bonjour, Fabrice de Gironde.
Ah, bonjour les grandes gueules, bonjour les amis, bonjour à tous.
Alors, qui va craquer en premier? Restez bien à côté du téléphone, Fabrice.
Oui, je ne bouge pas. Non, mais je vous trouve un peu tous naïfs, en fait. Vous pensez vraiment que Macron et ses ministres, ils vont, et Elisabeth Borne, ils vont lâcher le truc? Mais je crois que vous mettez le doigt dans l'œil, hein.
Ah mais moi je me suis pas mis le doigt dans l'œil, hein. Je suis comme vous.
Il y a moyen de lâcher en gardant sa fierté, hein. Vous savez, c'est des spécialistes les politiques pour ça.
Ça marche dans les deux sens, Étienne.
Quelqu'un qui dit en 2017 qu'il serait irresponsable de mettre la retraite à 64 ans, quelqu'un qui est capable de dire tout et son contraire. Vous pensez vraiment que cette réforme n'est pas bonne? À la limite,
il l'avait déjà dit.
Le premier jet de la réforme qu'il voulait faire.
Du sop, il l'avait déjà dit.
Ça allait à peu près. Le premier jet de la réforme, celle qui n'était pas...
La réforme par point.
Par point, voilà.
Les plus intéressante.
Mais là, je crois que vous rêvez tous. Ils feront rien du tout. Et à la limite, ils s'en fichent quand on entend Elisabeth Borne, Gabriel Attal, ces gens-là. Alors, sans faire de démagogie, les amis, je les invite. Moi, je suis conducteur de bus, mais je les invite juste à venir...
Mais attendez, ça va vous faire, là. Restez sur le téléphone. On dirait Étienne Libic face à son micro.
Reprenez bien le téléphone. Allez-y.
Je les invite à juste venir passer une semaine sur un chantier avec un couvreur zingueur. Et vous allez voir à 64 ans un couvreur zingueur.
C'est clair.
Mais oui, une aide soignante.
Une semaine. Mmh. Vous voyez, c'est pas 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Une semaine. Et vous allez voir ce que c'est le boulot d'un couvreur zingueur.
Non, alors, mais bien sûr.
Ils sont dans leur idéologie. Ils sont dans leur système à eux. Et ils se persuadent...
Alors, là où vous avez raison, Fabrice, c'est que l'argument qui est souvent vendu, c'est celui de simplement de faire des économies. Et c'est ça qui passe pas, en fait. Mmh. C'est qu'on est, on a l'impression qu'on a d'un côté des comptables...
Il y a un gouvernement qui a dépensé son compté aussi.
Des comptables, et de l'autre, simplement des gens qui travaillent, si tu veux. Le tableau Excel et la règle à calcul face à ceux qui bossent, et ça passe pas.
Mais ça passera jamais. Parce que c'est les mêmes qui ont dépensé sans compter, si tu veux. L'argument des déficits... Je pense qu'il existe. C'est vrai que la France est très endettée et qu'on dépense trop d'argent. Mais c'est vrai que ce sont eux qui ont dépensé depuis 3 ans sans compter. Tout à l'heure, on va parler électricité. Je regardais le bouclier. Et peut-être qu'il faut le faire. Hein. Le fait qu'on va payer que 15% d'électricité en plus, c'est 45 milliards cette année dépensés d'argent public. Donc quand tu dépenses 45 milliards uniquement pour le bouclier boulanger, peut-être qu'on a raison de le faire. C'est difficile de dire attention, on a des problèmes de déficit. Il y a un problème de crédibilité, en fait, de cohérence.
Oui, au-delà du problème de crédibilité, on a aussi un souci, c'est-à-dire qu'on a l'impression, quand tu parles de comptabilité, qu'il y a juste un couperet, qu'il y a juste une annonce, sans avoir prévu les mesures. C'est-à-dire, si tu dis que les gens vont devoir bosser 2 ans de plus, il faut que les gens arrivent à travailler jusqu'à 64 ans, ce qui est faux. C'est-à-dire que déjà, on a mis en place aucune mesure pour permettre à ceux qui sont au chômage à 58 ans de travailler jusqu'à 64 ans. Parce qu'il y en a plein des gens qui, de toute façon, dès 57-58 ans, ils sont rebuts et ils sont déjà considérés comme non-employables.
Quand t'es au chômage à 58 ans, c'est difficile.
Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour ça? Aucune. Deux, quelles sont les mesures pour tenir compte de la pénibilité, justement, et pour pouvoir faire passer, comme on a eu notre visite médicale. Voilà, mais notre premier auditeur, parce qu'il travaillait dans une administration, a pu être reclassé à la suite d'un handicap, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, qu'est-ce qui se passe pour le couvreur, justement, pour le déménageur, pour le couvreur? Qu'est-ce qu'on va leur proposer comme formation professionnelle?
Pas être dans les bureaux,
Ben oui, et comme formation professionnelle pour permettre qu'ils ne restent pas sur le toit à 64 ans. Et encore, 64 ans, mais ceux qui sont entrés un peu plus tard dans la vie active, c'est 67.
Mais c'est pour ça, c'est pour ça que je trouve que la question du temps de cotisation dont on avait parlé, le nombre de trimestres cotisés, c'est quelque chose, on en a parlé mille fois ici, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, ici, on sera bien obligé de prendre notre retraite, qu'il y ait une loi ou pas.
Exactement.
Pour avoir nos 43 annuités, nous serons bien obligés de prendre notre retraite à 64, 65, 66 ans. Donc de toute façon, cet âge symbolique de 64 ans, c'est peut-être une connerie, parce que
réalité,
réalité fait que de toute façon, nous prendrons notre retraite, qu'on ait le droit de de prendre, moi, à la limite, que j'ai le droit de prendre ma retraite à 60 ans, mais je ne peux pas la prendre à 60 ans.
Bah oui, sinon
je me barre avec rien. Voilà. Donc, de toute façon, c'est complètement idiot, cette histoire. Je dois travailler jusqu'à 66 ans si je veux pouvoir partir avec une retraite complète. Donc, je vois pas où est le souci, quoi. Mmh. En réalité, et il suffit de donner un nombre d'années cotisées et un peu moins
oui,
pour les boulots très difficiles.
Mais évolutions. Le problème, c'est que ton nombre d'années, si le gars, il est rentré plus tôt, c'est d'ailleurs eux qui se font avoir, c'est que celui qui est rentré plus jeune, eh ben, il va devoir travailler jusqu'à 64 ans. Ce qui est un scandale.
Et je trouve là-dessus, la droite, la droite traditionnelle ah oui, a plutôt raison.
Mais il y a
finir chez les LR et
vas-y, Stéphane. Il va passer d'un extrême à l'autre. Non, tu vois, ici j'avais même dit pourquoi ne pas mettre tout ce qui est RTT, congés payés, etc. de côté sur un compte en fait.
Ça existe.
Non.
Si le compte
pour ta retraite, non. Eh ben non, ça n'existe pas. Bah, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron.
Ça existe.
Non,
ça existe.
C'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Et Elisabeth Borne remue ciel et terre aujourd'hui pour convaincre les députés de remettre en place cette promesse. Cette promesse, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pardon.
Alors, le compte épargne temps, ça peut mettre
le compte épargne temps universel pour la retraite. Ah, pour la retraite. Tu ne peux pas. C'est ce que je disais. Tu ne peux pas. Donc ça, c'était une promesse du candidat Macron. Et Elisabeth Borne, aujourd'hui, est en train de remettre cette proposition en route. Donc, quand Emmanuel Macron dit « j'ai été élu aussi sur la réforme des retraites », oui, mais dans sa réforme des retraites, il y avait des conditions. Et celle-ci en faisait partie. Et par exemple, moi, je trouve que ça, c'est une bonne chose.
Ouais,
quand tu as trop de congés, quand t'es jeune, bah, tu les mets de côté pour partir plus tôt, parce que tu peux estimer à juste titre, toi, que tu vas travailler dans un métier pénible, et tu mets de côté tes RTT, tes une semaine par-ci, par-là, et là, tu crées un compte emploi temps universel, et je trouve que ça, c'est une bonne
chose.
On
va regarder quelle est votre perception. Alors, justement, on vous a posé la question, là, durant ces 20 minutes de discussion, syndicat, gouvernement, qui va craquer en premier. On est à gouvernement, pour le millier d'entre vous qui avez voté sur... Twitter,
quoi,
non, 58-42.
58 pour le gouvernement, 42 pour les syndicats.
Si vous vous dites, moi je penserai plutôt aux vacances, vous faites bien de continuer d'écouter les GG, les Grandes Gueules et d'écouter RMC. On a le jeu bel en bras. Toute cette semaine, vous savez qu'on vous offre vos futures vacances à la mer, à la montagne, à la campagne. Une semaine dans les bel en bras clubs entre amis ou en famille. Vous avez le choix à travers 50 destinations en France. Vous avez même les animations par les équipes Bel en bras pour les plus petits. Ils seront aux petits soins pour vous tout au long de la semaine. Vous m'envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Il y a parmi les villages proposés, vous pouvez aller du côté de Superbès, de Rocamadour. Tiens, l'île sur la c'est magnifique, Rocamadour.
Oh,
l'île sur la Sorgue dans le Luberon.
Rocamadour, à chaque fois, je pense à cette chanson. Comment il s'appelait
Gérard Blanchard.
Ah, voilà.
Ma femme est partie avec le loup dans les bras de Rome. Voilà, tout est sur la lèche, notre ami.
Moi, je pense plutôt
avec
au fromage.
Ses souliers vernis.
Un bon Rocamadour, une bonne baguette et un bon verre de pif.
Sur son jeu, lit postérieur.
Excellente chanson.
Les amis. Vous m'envoyez vacances par SMS au 732-16 et on retrouve la musique d'ici la fin de l'émission. Allez, à vous de gagner.
Oui.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Tout à l'heure, à 10h, notre prochain grand sujet de discussion avec vous au 32-16. C'est de savoir quelle est notre part de responsabilité aujourd'hui pour aider les commerçants qui sont dans les difficultés. À Bargemont, dans le Var, il y a un boulanger qui propose une baguette solidaire. Il y a la baguette normale et une baguette un peu plus chère. Il dit, si vous voulez m'aider, si vous voulez me soutenir aussi, vous voyez, j'ai fait une baguette un peu plus chère parce que mes factures sont plus lourdes. Donc, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher chez les artisans, chez les commerçants, chez les boulangers?
Vrais artisans.
Oui. Pour les aider, quoi.
Donc,
on en parlera tout
et
à l'heure.
Est d'accord avec ça.
Au 32-16 avec vous. En attendant, c'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
La grève, c'est fini, c'était hier.
Qu'est-ce qui vous arrive? Elle est là, elle est devenue la star des réseaux sociaux. Anaïs Sainz, notre productrice, bonjour.
Alain, bonjour.
Bonjour à tous. La vidéo d'un petit lycéen qui fait le buzz. Il bloquait le lycée Voltaire hier à Paris. Il s'en est expliqué devant la caméra de BFM TV. 15 ans seulement, mais déjà très très remonté contre la réforme des retraites. On l'écoute.
que le but du gouvernement, c'est de nous mettre au travail, au service du capital, mais aussi de faire travailler beaucoup plus longtemps, 2 ans de plus. Ces personnes-là qui vont partir plus tard, ce sont nos proches. Nous luttons aussi en solidarité avec les travailleurs. Donc, on va faire plier Macron et on est très, très déterminés.
Son nom, Manès Nadel, responsable fédéral Paris de la Voie lycéenne.
Il a quel âge?
15 ans. Jeune et pas con. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Marianne?
On s'en fout pas.
Stéphane?
On s'en fout pas.
Étienne?
On s'en fout pas.
Marianne?
On s'en fout pas parce qu'elle est belle, cette jeunesse. Moi, j'aime la jeunesse qui réfléchit, j'aime la jeunesse qui s'engage. Si on n'est pas dans un discours d'ultra-gauche à 15 ans, on le sera jamais. Donc moi, je trouve ça super, j'adore. Vraiment, en plus, il est intelligent, il a un discours qui est assez structuré. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de voir cette jeunesse qui est aussi solidaire des autres générations.
Tout le monde il parle quand même un peu comme les vieux. Hein.
Oui, enfin, avec le capital et tout, c'est assez drôle de l'entendre parler.
Il parle comme Fabien Villedieu. Hein.
Oui, non, mais c'est assez marrant de l'entendre parler comme ça. Pour autant, je pense que c'est absolument pas un perroquet, que c'est un garçon extrêmement intelligent. Et donc, bravo Manès, et qu'il continue. Ils ont bien fait, la Voix lycéenne, de le prendre comme porte-parole. Étienne ?
Moi, écoute, je trouve que, j'adore ce gamin, mais il n'est pas très original pour une parole de jeune. Je trouve qu'il a une parole qui est intéressante, mais qu'on a déjà entendue. Je préfère que la jeunesse s'exprime en nous choquant, en nous heurtant,
et même en
ne reproduisant pas systématiquement l'éthique de langage et même les comportements. C'est-à-dire que je trouve que la jeunesse doit se battre à son niveau et doit peut-être même nous choquer et nous heurter. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Si 68 a eu lieu, c'est parce que la jeunesse n'était pas sur les codes des grands syndicats de l'époque.
Écoute, la bonne nouvelle, c'est que Manès, je suis persuadé qu'en 2027, il va voter. Et on se plaint dans ce pays que les jeunes ne votent pas, que machin. Moi, bon, quand je vois un môme de 15 ans...
Il votera Édouard Philippe en 2027.
Il aurait changé d'avis. Première fiche d'imposition, s'il aura travaillé. Non, moi, je trouve ça très bien. Moi, j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça mignon. J'ai dit, il y a tellement de jeunes qui s'expriment mal, on leur tape dessus, voilà, en disant c'est des délinquants, c'est des casseurs, c'est des machins. Et quand on voit un môme qui s'exprime et qui, au fond... dit ce qu'il est, ce que
ça intéresse,
qu'on aurait tous pu dire quand on avait 15 piges.
Après,
enfin,
Maurice
a 15 ans.
Ouais, juste un truc pour entendre son vocabulaire et son niveau de langage. Je pense, et puis vu le lycée qu'il a bloqué, je pense quand même que Manès est d'un milieu, c'est pas un petit mec de banlieue.
Mais c'est jamais,
quoi.
Mais peu importe. Les lycées qui ont été bloqués, c'est les lycées du centre de Paris. Voilà. Les lycées de banlieue n'ont pas été bloqués, mais parce que, effectivement, il est sans doute à table avec ses parents.
La question de la conscience politique est une question particulière. C'est-à-dire, on prend une conscience politique quand ses parents soi-même sont militants ou qu'on est
on
dans
le
lutte.
On devient opposant à ses parents.
Et c'est donc effectivement des gens ont parfois d'autres préoccupations que le militantisme, et c'est parfois compliqué.
C'est très bien. On continue.
La réforme des retraites toujours, et cette nouvelle sortie de Sandrine Rousseau qui a pris l'exemple de la retraite des footballeurs pour envoyer un nouveau tacle à Emmanuel Macron, un parallèle audacieux. Écoutez.
Je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans? Et que va-t-il faire? Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouillets à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior.
Voilà, on était en pleine commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Marianne?
On s'en fout pas.
Stéphane?
Je m'en fous complètement.
Éducateur?
Éducateur?
Ça s'arrange. Elle a été taillée en son Anaïs.
On s'en fout pas parce qu'elle est prof, elle est prof d'économie et elle dit n'importe quoi. S'il y a bien une personne sur laquelle on ne doit pas s'inquiéter, c'est Kylian Mbappé. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc on s'en fout pas parce que je trouve qu'elle décrédibilise complètement la parole de son groupe.
Mais peut-être qu'elle est payée par Emmanuel Macron.
Quand j'ai vu, j'ai cru que c'était de l'humour et c'était du second degré.
Elle rit pas, hein.
Il a 2 siècles de retraite minimum.
Parce que si elle est sérieuse, c'est grave.
En revanche, ça a beaucoup ri quand elle a dit ça dans la salle. Il y a beaucoup de députés ont rigolé. Parce que s'il y en a bien qui doit pas poser de problème de retraite, c'est Mbappé.
Même les petits-enfants de Kylian Mbappé n'auront pas des problèmes de retraite. Mais elle enchaîne très sérieusement sur la retraite des nés.
C'est intéressant parce que la retraite, ce n'est pas que le pouvoir d'achat. C'est-à-dire si, justement, la question, c'est complètement idiot ce qu'elle raconte, mais parce que je pense justement qu'Mbappé, en plus d'être richissime, est aussi
généreux.
Un garçon très généreux et très intelligent, puisque j'ai vu ses profs qui disaient que quand il était petit, il était même un peu HPI par rapport à l'école. Donc je pense que le mec n'a pas non plus de problème de récupération. Ce qu'on a vu en revanche chez des gens qui sont très fortunés, qui passant à l'inactivité ou à la retraite, ne savent pas se recycler comme quelqu'un comme Noah, par exemple, qui est parti travailler en Afrique, etc. Il y a des gens qui sont complètement cassés et qui ne savent rien faire pognon.
Oui, mais faut pas prendre Mbappé comme exemple.
Mais c'était idiot de prendre Mbappé comme exemple.
Et tu vois, par exemple, on a parlé il y a 30 secondes du petit Manès. Moi, je trouve que j'ai pris plus de plaisir à écouter Manès que la ridicule élue députée Sandrine Rousseau.
Ouais, ça, je suis d'accord.
Les GG, électricité, péage, les Français passent à la caisse à partir d'aujourd'hui. Plus 15% des tarifs de l'électricité, plus 4,75% pour les péages. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Stéphane ?
Non, on s'en fout pas.
Marianne ?
On s'en fout pas.
Étienne ? Stéphane ?
Alors, on s'en fout pas parce que tout ce qui est augmentation, c'est forcément un coup de canif dans le portefeuille des Français, des Françaises, des artisans, des entreprises, du pouvoir d'achat, de la consommation, parce que c'est ce qui génère aussi de l'emploi. Donc non, on s'en fout pas. Et puis on doit à un moment se poser la question de comment les grands projets sont financés par de l'argent public, les autoroutes, les aéroports, etc. Financés donc par tous les Français et ensuite remis sur le marché par des systèmes de concessions. Au fond, toi le couillon, t'as payé pendant 40 ans, 50 ans, tes parents, tes grands-parents. Et qu'à un moment, ça revient sur l'escarcelle du privé. Alors je suis un libéral, ça revient sur l'escarcelle du privé.
Et
au moment où tu peux récupérer enfin les fruits de 40 ans d'investissement, d'impôts, de taxation, etc. Eh ben tu lâches le truc.
Mais je pense qu'il y a des domaines qui doivent pas être privatisés. Excuse-moi, je pense que l'énergie ne doit pas être privatisée. Je pense que à la limite les autoroutes n'auraient pas dû être privatisées.
Non,
la question de la santé ne doit pas être privatisée. Je pense qu'on est, on se retrouve là hier, il y a eu des abus incroyables avec chez des dentistes qui se sont retrouvés qu'on fait payer 8 000 euros pour un détartrage parce que c'est la Sécu qui raque et que. Mais oui, 8000 euros pour un détartrage. Vous regardez. Mais bon, regardez, c'était dans le Parisien hier. Mais non, c'est pas une connerie.
C'est une escroquerie.
Ça s'appelle une escroquerie.
À la CPAM.
À la CPAM.
Ah oui, c'est une escroquerie.
Mais bien sûr, c'est une escroquerie. Mais je veux dire.
Quel soin justifie 8000 euros?
Je veux dire, mais rien. Je veux dire que, à partir du moment où on privatise, on ne contrôle rien.
Oui, bah, c'est vrai que l'État gère très bien. On l'a vu.
Eh bien, je pense que sur les questions de l'énergie, de la santé.
L'énergie, c'était public,
on s'offre à moins. Que si c'est privatisé.
Hey, EDF, c'est une entreprise publique.
Ouais, mais tu sais, là, tout le pognon collecté sur les complémentaires retraites, tu le mets chez Total parce qu'on tape dessus. Il faut quand même savoir que Total Énergie prête 50% de l'actionnariat. C'est des fonds anglo-saxons. Hein.
Ouais, mais restons sur ces augmentations parce que le gouvernement.
Oui, mais tu récupères 4 milliards.
Le gouvernement dit que plus 15% d'électricité, certes, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que nos voisins parce qu'il y a ce fameux bouclier tarifaire qui coûte 45 milliards.
Nos voisins ne produisent pas de l'énergie, ils n'ont pas de centrale nucléaire.
Rapidement, Marianne.
Mais je voulais juste vous dire, il m'arrive un truc incroyable, c'est que j'ai reçu mon nouvel échéancier EDF et en fait, avec tout ce que j'ai fait, je vais payer moins. En fait, tellement j'ai décalé, etc. Incroyable.
Ouais, donc ça marche.
Ah oui, oui, non, mais incroyable parce qu'en fait, moi, je regardais jamais quand je mettais. D'abord, je me sers plus du sèche-linge. Hein, je suis comme, c'est plus qui a dit ça, oui. Et
c'est pour ça que ta veste est mouillée encore.
Mais par contre, non, mais le.
C'était Gilles Legendre.
C'était Gilles Legendre. Mais en fait, en ayant tout décalé à 22h, toutes les machines, j'ai réussi à diminuer.
Ouais. À cause de Marianne, les heures pleines vont passer à partir de 22h maintenant.
Ça, ouais.
Allez, dans un instant, justement, le boulanger solidaire, la baguette solidaire, prêt à payer plus cher pour sauver le boulanger ou le pâtissier ou le boucher. Comment ça, non?
J'ai la baguette solidaire, moi, c'est un truc qui me fait marrer.
Mais surtout, les vacances. N'oubliez pas, vacances par SMS au 732-16. M'envoyez vacances par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez, vous partez dans un club bel en bras. Vous choisissez la campagne, la montagne ou la mer. Vous partez en famille ou entre amis. C'est pour vous et vous passez en direct. Exprimez votre joie tout à l'heure à 11h20.